Le journal, Bernadette Chamenaz. Bonjour Bernadette.
Bonjour. Médicaments, stop à la pénurie. Le gouvernement menace. Les labos devront faire des stocks sous peine d'amende. Explication dans un instant. Le fioul flambe, plus 5% le prix du litre en une semaine. Depuis les attaques de sites pétroliers en Arabie Saoudite, les Français se précipitent pour remplir leurs cuves, on le verra. En Algérie, les manifestations continuent, la répression s'accentue. Capitale quadrillée par la police, arrestation. Nous sommes allés à la rencontre entre des familles de prisonniers. Sophie Pétronin, 1000 jours otage au Sahel, énième appel de son fils pour que l'État agisse. Enfin, parmi les trésors sauvés de l'incendie, le tapis de Notre-Dame à découvrir lors des journées du patrimoine.
Et avant l'ouverture lundi du procès du Mediator, rendez-vous avec la pneumologue et lanceuse d'alerte, celle à qui l'on doit la révélation de ce scandale sanitaire, Irène Frachon. Elle sera l'invitée de France Inter à 7h50.
France Inter.
Stop aux pénuries de médicaments, le gouvernement a décidé d'agir.
Car il y a urgence, en 10 ans, ces pénuries autrefois très rares ont été multipliées par 20. Rien que pour cette année 2019, 1200 médicaments ont, à un moment ou un autre, manqué dans les pharmacies. Et parmi les plus sensibles, vaccins, antibiotiques, anticancéreux, hier, le Premier ministre, entouré des ministres de la Santé et de l'Économie, a reçu à Matignon une délégation de laboratoires. Et il a été clair, les Aiguillennes, ils devront prévoir des stocks sous peine d'amende.
Des sanctions financières jusqu'à 1 million d'euros, soit 30% du chiffre d'affaires journalier et l'obligation de constituer 2 à 4 mois de stock pour les médicaments prioritaires. Voilà une partie des annonces faites hier soir par le Premier ministre. Édouard Philippe veut que les industriels soient exemplaires, dit-il, et qu'ils soient punis lorsqu'ils ne respectent pas les règles.
Lorsque l'information de l'Agence nationale n'est pas suffisante, lorsque elle est trop tardive, ou lorsque la constitution de stock n'est pas à la hauteur des exigences et de l'intérêt que nous décelons.
De leur côté, les principaux concernés restent pour l'instant prudents, tout en rappelant qu'ils travaillent déjà sur la question. Frédéric Collet est le président du LEM, il représente les industriels des médicaments.
Nous avons publié au mois de février déjà une grande liste de mesures pour s'occuper de ces questions de rupture. Concernant les sanctions, nous avons souligné auprès du Premier ministre qu'il fallait prendre garde que ces sanctions n'aient pas d'effet contre-productif.
Les modalités de ces nouvelles sanctions seront précisées dans le PLFSS, le projet de loi de financement de la sécurité sociale 2020.
Lisa Guyenne, effondrée, horrifiée sur France Inter. Au téléphone sonne hier soir la ministre de la Santé à propos de cet essai clinique mené en toute illégalité, dans le plus grand secret, jusqu'à son interdiction il y a quelques jours par l'Agence du médicament. 350 malades de Parkinson ou d'Alzheimer recevaient de la mélatonine sous forme de patch aux effets inconnus et les initiateurs de l'expérience demandent même aux patients de stopper leur traitement habituel. Une enquête est ouverte et Agnès Buzyn a annoncé des sanctions. La Cour de cassation examine à nouveau à partir d'aujourd'hui la question des enfants nés à l'étranger par gestation pour autrui. Actuellement en France, seul le père biologique est inscrit à l'état civil. La mère d'intention, elle, est considérée comme mère adoptive. Les hauts magistrats pourraient proposer qu'elle soit reconnue comme mère habituelle si elle prouve qu'elle élève l'enfant. Le fioul est en hausse. Les Français se précipitent pour remplir leurs cuves car ils redoutent que cette hausse se poursuive. Depuis l'attaque samedi dernier de ses installations pétrolières, l'Arabie Saoudite a brutalement coupé les vannes de la moitié de sa production. En quelques jours, le litre de fioul a pris 5%, passé de 90 à 95 centimes. Les clients se précipitent donc pour remplir leurs cuves et les livreurs ne savent plus où donner de la tête. Laurence Méride a suivi une tournée à Brantôme dans le Périgord.
Avec son camion rempli de fioul, Thierry Bernard est sur les routes depuis 6h30 du matin.
Le gros de la livraison, c'est fin août, début septembre. Et ça se calme après. Vu qu'il y a une augmentation, les gens refont rentrer 500 litres au lieu de les faire rentrer au mois de janvier ou au mois de février. Les gens ont peur, on se met à leur place, quoi.
Il a deux fois plus de clients qu'en temps normal.
Alors par contre, votre commande, combien de litres ?
1000 litres ?
1000 litres. D'accord.
Okay. Amandine a commandé juste à temps.
C'est parti pour 1000 litres.
Elle paiera le litre 5 centimes moins cher.
Il n'en restait pas beaucoup, les prix augmentent, donc voilà. On ne voulait pas prendre de risque de plus avoir de fioul justement, et de payer en plus plus cher plus tard aussi. Tout augmente, donc il n'y a pas de petites économies, il faut faire attention.
Avec sa retraite de 635 euros par mois, Monique, sa voisine, a dû revoir sa consommation à la baisse.
C'est trop cher. Quand il était moins cher, je faisais remplir ma cuve, je tenais toujours ma cuve pleine. Maintenant, j'en prends que 500 litres à la fois. Et là, c'est plus difficile. 500 euros, vous n'en avez pas beaucoup. Hein.
Thierry, lui, doit reprendre la route.
Et à la prochaine, peut-être,
la
mais
prochaine.
Le plus tard possible.
Oui.
Au revoir, bonne journée.
Il va remplir son camion de fuel avant de livrer les 7 derniers clients de la journée.
Le reportage de Laurence Méride et de deux deuxièmes compagnies aériennes françaises en moins de 3 semaines à se déclarer en cessation de paiement. Après Glazur, XL Airways demande son placement en redressement judiciaire. Toutes les ventes sont stoppées depuis hier soir. On y revient en détail dans le journal de 8h. J'ai 17 ans, je ne veux pas vivre dans un monde pollué. Les jeunes de Fridays for the Future lancent 2 jours entiers de mobilisation mondiale pour le climat dans 120 pays, des centaines de villes. Il y aura grève et des marches demain.
Et puis Bernadette, il est mort sans demander pardon.
C'était la réaction hier d'une partie des Tunisiens en apprenant la mort de leur ancien président Ben Ali, premier dirigeant du monde arabe dégagé par la révolution après 23 ans d'autocratie, de répression. Il est mort donc à 83 ans en Arabie Saoudite où il était en exil. Si les Tunisiens ont tourné la page de la dictature, les Algériens luttent toujours. 7 mois qu'ils manifestent chaque vendredi pour en finir avec les caciques de l'ancien régime pour une véritable démocratie. Et bien malgré cette mobilisation d'ampleur inédite, le pouvoir ne cède pas et même il se raidit. La révolte a fait ses 3 premiers morts cette semaine. Les arrestations se multiplient. Leïla Berato est allée à la rencontre des familles des prisonniers de ces derniers mois.
Le fils d'Areski Chalal est détenu depuis le 28 juin parce qu'il portait un drapeau berbère.
On les relâche parce qu'il n'y a pas de délit. Il n'y a pas un délit qui s'appelle « port de l'emblème amazigh ». Ça n'existe pas.
S'il continue de manifester chaque semaine avec ses autres enfants, Areski Chalal craint que les instructions de l'armée de boucler les accès de la capitale n'allongent la liste des détenus.
Je suis de nature très optimiste, mais je commence à avoir des craintes. Parce que le gendarme, il a le droit de vous dire, vous et vos enfants, vous êtes là pour aller manifester.
Le frère de Wahiba Kichou a lui été arrêté parce qu'il avait des pancartes dans sa voiture. Wahiba, ancienne photographe, est persuadée que d'autres familles seront touchées.
Les arrestations, ça ne va pas s'arrêter là. Hein. C'est un défilé, on le voit. Hein. Je pense, j'ai l'impression qu'on est en train de revenir en arrière. Hein. Alors là, donc avec l'approche des élections, ça m'étonnerait qu'ils vont les relâcher.
Wahiba et son mari Omar expliquent qu'ils se sont désormais organisés. Ils ne vont plus manifester ensemble pour qu'au cas où il y ait une arrestation, il reste quelqu'un pour s'occuper de leurs 2 enfants. À Alger, Leïla Berato, RFI pour France Inter.
Voilà des témoignages rares de ces Algériens qui osent parler. Et puis à quelques heures d'une nouvelle manifestation ce vendredi à Alger, eh bien les forces de l'ordre bloquent les entrées de la capitale. Elle est la dernière otage française dans le monde. 1000 jours aujourd'hui que Sophie Petronin est aux mains de ses ravisseurs. Enlevée la veille de Noël 2016 au Mali, le dernier message des ravisseurs date d'il y a près d'un an. Il était alarmant sur l'état de santé de cette femme de 73 ans. Ma mère est en train de sombrer. Son fils, Sébastien Chadeau-Pétronin, lançait alors un appel aux autorités françaises. Il repose la question « Que faites-vous au 1000e jour de captivité de sa mère ?»
Les gens qui la détiennent aimeraient bien trouver une issue à cette affaire. Ils sont aussi très embêtés de devoir la garder. Les raisons sont multiples. C'est une femme, elle est âgée. C'était une humanitaire qui était beaucoup aimée au Mali. Et elle est malade, elle nécessite des soins, donc elle devient une charge financière. Donc il y a une vraie volonté du côté des gens qui la tiennent de s'en séparer. Ma conviction, elle est que les autorités françaises ne font absolument rien pour trouver une solution conciliatrice ou une solution de négociation, une solution de diplomatie. Voilà, je m'attends de nouveau à me retrouver seul face au destin de ma mère. Mais...
Nouvel appel donc du fils de Sophie Petronin au micro d'Olivier Poujade. Dans l'affaire du faux Le Drian, 7 escrocs présumés sont renvoyés devant le tribunal correctionnel de Paris. La mise en scène était incroyable. Assis à un bureau devant les drapeaux européens français, les escrocs portaient un masque en silicone ressemblant à s'y méprendre au visage de Jean-Yves Le Drian qui était alors ministre de la Défense. Par Skype, ils appelaient des gens riches pour leur demander des fonds, soi-disant au nom de la lutte antiterroriste. L'arnaque aurait rapporté plus de 80 millions d'euros. En ces journées du patrimoine, ce week-end, comment ne pas penser à Notre-Dame, à ses trésors sauvés de l'incendie? Parmi eux, on pourra admirer à l'occasion de ces journées, dans les réserves du Mobilier National à Paris, l'immense tapis de la cathédrale, 25 mètres de long, 7 de large, et il a été sauvé, Bastien Munch.
Il trône désormais en star au milieu des autres meubles historiques. Les couleurs du gigantesque tapis de Notre-Dame semblent toujours aussi éclatantes. Et pourtant, le soir de l'incendie, des tonnes d'eau souillée lui sont tombées dessus. Hervé Lemoine est le directeur du Mobilier National.
On craignait des déchirures peut-être plus importantes, on craignait aussi des altérations peut-être plus importantes des couleurs, par exemple. Alors, comme vous le voyez, il y a des auréoles, il y a des taches, il y a quelques manques, il y a quelques déchirures, mais ce qui a été pour nous une grande satisfaction, un grand soulagement, c'est qu'il n'y a absolument rien d'irrémédiable.
Après l'incendie, le tapis néo-gothique est séché, puis congelé dans un conteneur géant, histoire d'éviter toute prolifération de champignons. Les visiteurs auront le privilège de l'admirer dérouler, ce qui n'est arrivé qu'en de rares occasions. Un privilège symbolique, 5 mois après l'incendie, selon Hervé Lemoine.
De pouvoir montrer une nouvelle fois une des pièces quand même assez spectaculaire qui provient du cœur de la cathédrale et qui en a été donc sauvée et qui est déjà dans un processus de restauration, ça nous a paru permettre de délivrer du moins un message un peu d'espoir et un peu optimiste après cette catastrophe qui a attristé tout le monde.
Après les journées du patrimoine, le tapis en laine sera partiellement restauré dans l'un des ateliers du Mobilier National, la même où il avait été créé dans la manufacture de la Savonnerie 181 ans plus tôt.
Et on pourra admirer aussi d'autres objets ô combien emblématiques comme le coq de la flèche qui a été détruite, on s'en souvient bien sûr, par l'incendie. Ça ne fait pas vraiment partie du patrimoine du Japon, pourtant c'est bien au Japon que commence aujourd'hui la Coupe du Monde de rugby. Match d'ouverture Japon-Russie, 12h45 heure française. Et puis bien sûr demain la France face à l'Argentine dès 9h15 du matin.
Rendez-vous est pris, merci Bernadette Chamonaz.